bonjour à tous. Bienvenue donc pour cet après-midi sur le thème de la méthode Vitose. Donc effectivement, le titre qu'on avait choisi, c'est la méthode Vitose pour s'ancrer dans son corps et la réalité présente, pour se poser, s'apaiser, se relier à soi, aux autres et au monde. En fait, on aurait pu choisir un autre titre qui serait « Comment avec Vitose remettre le corps au centre du jeu ?» Et le jeu, ce serait J-E et J-E-U. Donc je pense qu'on est vraiment sur le thème de ce week-end. Un petit sondage, qui a déjà entendu parler de la méthode Vitose? Wow. Donc observez bien qui en a entendu parler. Et maintenant, qui a déjà pratiqué? D'accord, donc vous voyez qu'il y a une petite différence. Alors, c'est juste parce que vous verrez que cet après-midi, justement, on a vraiment fait le choix. Il va y avoir un petit exposé de ma part, pour bien sûr vous présenter les choses, mais ensuite vous serez vraiment invité à expérimenter. Hein, la notion d'expérimentation, vous verrez que c'est vraiment important. Alors, la méthode Vitose, en fait, c'est une approche psychocorporelle qui, en fait, invite à développer l'attention dans l'instant présent. En fait, qui est basée sur la redécouverte de l'importance de nos cinq sens et du corps, justement, à habiter dans son quotidien. Et qui invite aussi à développer la conscience de nos actes, dans l'ici et maintenant. Hein, on dit qu'en fait, la vie, c'est ici à chaque instant. Or, lorsqu'on n'est pas dans notre corps, où est-ce qu'on est? En général, on est souvent dans notre tête. Et notre tête, en fait, elle a cette à la fois faculté d'un côté, mais des fois, ça peut être une difficulté, parce qu'elle est souvent dans le passé ou souvent dans des projections dans le futur. Or, si mon corps, lui, n'a pas d'autre choix que d'être dans le présent, et si ma tête est dans le futur ou dans le passé, ben forcément, ça peut créer des tensions et des distorsions. En fait, la méthode Vitose, c'est à la fois une psychothérapie, mais c'est aussi une pédagogie et en fait un véritable art de vivre. Hein, l'art vitosien, ceux qui ont pratiqué, ceux qui connaissent un petit peu, c'est vraiment cette idée d'apprendre à habiter ce corps, à habiter ce moment présent. Ce qui en fait une méthode en fait très très complète. Alors cette notion, effectivement, le docteur Vito, je vais en parler juste après, il invite vraiment à cette notion d'expérience. Et d'ailleurs, lui-même a mis en place sa méthode à partir de son expérience de médecin. C'était un médecin suisse. Et donc il a développé des pratiques qui, en invitant à être dans le présent, en fait, vont permettre d'apporter de la détente, de la confiance et du plaisir. J'aime bien dire aux gens que j'accompagne en groupe ou en individuel que la question de la conscience amène de la confiance. Et que par exemple, d'avoir conscience de notre corps, de ses limites, de cet enveloppement de notre corps, paradoxalement, ça nous donne beaucoup de force intérieure. Est-ce que souvent ce qui est difficile psychiquement, et aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de mal-être, c'est que les gens sont beaucoup dans leur tête, et justement n'ont pas forcément conscience des limites. Parce que pour la tête, c'est nos limites, et ça peut créer des difficultés à vivre. La notion d'expérience, elle est aussi très importante, car comme le disait le grand physicien Albert Einstein, il disait que la véritable connaissance vient de l'expérience, et que tout le reste n'est que de l'information. Donc aujourd'hui, je vais donner un petit peu d'informations, mais tout à l'heure, on dira dans l'expérience pour vraiment vous inviter à aller vraiment dans le champ de l'expérimentation, accès à la connaissance. Et puis par ailleurs, il y a une grande découverte des neurosciences il y a une trentaine d'années qui s'appelle la neuroplasticité. Alors, je ne sais pas si certaines ont déjà entendu parler. C'est le fait que notre cerveau, contrairement à ce qu'on pensait, produit des nouvelles connexions neuronales, des nouveaux neurones, et ceci tout au long de notre vie. Et en fonction justement de nos expériences, de nos apprentissages. Donc ça montre bien que le fait que d'aller dans l'expérience, ça peut modifier jusqu'à la structure de notre cerveau et donc nous faire évoluer. Et donc c'est une découverte qui est fondamentale, qui nous montre bien que le changement est au cœur de chaque individu. Alors que peut-être certaines ont entendu certaines théories qui disaient à une époque que tout est joué avant 6 ans. Peut-être que certains ont déjà entendu parler, donc entendre ça, effectivement, ça donne peu de perspective qu'on puisse évoluer. Or, ce n'est absolument pas ça. Et Vitoz, hein, donc je redirai, mais c'est un médecin, un ancien médecin qui est né à la fin du 19e siècle. Il n'avait pas du tout connaissance de la neuroplasticité. Et pour autant, il avait vraiment pris conscience de l'importance de la répétition régulière des pratiques dans le quotidien, et que c'était cette répétition régulière qui engendrait des changements en profondeur et dans la durée. Voilà, donc d'où encore une fois l'importance de la pratique. Et dernière chose, c'est que accepter de rentrer dans la pratique, c'est accepter de rentrer dans un processus de changement qui en fait va nous apprendre à lâcher le connu, à lâcher l'attendu pour aller vers plus d'inconnu et plus d'inattendu. En tout cas, de nous laisser surprendre. Et c'est comme ça que petit à petit, les pratiques Vitoz nous aident à aller au-delà de ce qu'on pense être en fait. Souvent, on a une image de nous-mêmes qui est un petit peu limitée et on s'aperçoit qu'on est bien plus que ce qu'on pense être. Donc là, l'objectif final, finalement, de la méthode Vitoz, donc, c'est de développer cette présence attentive, cette pleine conscience. Peut-être que certains connaissent, on parle beaucoup de la pleine conscience. Hein, Vitoz est une approche de pleine conscience. Mais alors concrètement, comment ça marche et comment ça fonctionne? Et bien justement, je vais vous inviter à tout de suite à faire une petite pratique. Ça ne va pas durer très longtemps, mais voilà, je vais vous inviter à pratiquer pour que justement vous fassiez des liens avec ce que je viens de dire. Donc je vais vous inviter à lâcher tout ce que vous pourriez avoir dans vos mains. Je ne sais pas si vous savez, mais nos mains sont très liées à notre cerveau. Quand je libère de la place dans mes mains, ça libère de la place dans mon cerveau. Donc pensez-y. Rien que d'avoir cette conscience que quand j'ouvre les mains, quand je prends conscience qu'il y a l'espace dans mes mains, ça libère quelque chose dans mon cerveau. Juste avant de pratiquer, trois choses très importantes. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de pratiquer. C'est très important. En Vitoz, toute expérience est intéressante. On va voir que la question du jugement sur ce qui serait bien, ce qui serait mal, ce que j'aurais bien fait, ce que j'aurais mieux fait, c'est un des principaux empêchements qui nous empêche justement d'être dans l'expérience telle qu'elle se déroule à chaque instant. Et par ailleurs, l'objectif de la méthode Vitoz n'est absolument pas d'être calme, zen et tranquille, mais bien d'être présent et conscient. Et que c'est cela qui ensuite permet peut-être de développer l'état de calme et l'état de bien-être. Donc entendez bien, la première chose c'est d'essayer d'être présent et conscient de notre état intérieur. Voilà, donc je vais vous inviter, vous allez garder ou fermer les yeux comme vous le souhaitez. Et chacun va vivre son expérience. Chacun est invité à prendre le temps d'accueillir son état. Voilà, vous arrivez à ce week-end du HEC, certains de très loin, d'autres plus proches. Vous vous êtes déplacé pour venir, vous avez fait un choix conscient de venir. Eh bien, ça y est, vous y êtes. Et je vais vous inviter, pour sentir que vous y êtes, à partir de la conscience que vos pieds touchent le sol. Et de fait, accueillez sous vos pieds ce sol. Il est solide, il est consistant, et vous pouvez vraiment vous laisser porter. Prenez simplement conscience de ce qui se passe en vous, de ce qui s'est passé en vous lorsque vous êtes dans vos pieds. Peut-être que certains... Voilà, peut-être que certaines ont senti leur respiration. Et d'ailleurs, je vous invite à sentir, à accueillir. Voilà, comment ça respire? Qu'est-ce que je sens? C'est peut-être certaines dans le ventre. Pour d'autres, c'est dans les épaules, dans le dos. Pour d'autres, je sens absolument rien. Je suis encore dans mes pensées. Et si c'est le cas, accueillez ce qui est. Acceptez d'être là où vous êtes, sans rien vous imposer, que simplement d'être présent à ce qui se passe pour vous. Vous allez aussi prendre le temps d'accueillir la chaise qui vous porte, pour la sentir sous vos fessiers, derrière votre dos, que vous êtes en appui. Voilà, juste vous inviter pendant quelques secondes à vous autoriser à vous laisser porter, à vous déposer, à vous poser, vous installer pour ce moment, et peut-être même de vous reposer. Voilà, de prendre conscience de mon niveau d'énergie de ce début d'après-midi. Et si mon niveau est bas, je me sens fatigué, ben j'accueille que je me sens fatigué. J'essaye de respecter cela. Et puis là, accueillez simplement, commencez dans votre tête, qu'il y ait beaucoup de pensées, peu de pensées, sentez. Puis vous allez juste accueillir l'ensemble des sons que vous recevez dans vos oreilles. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, et vous prendrez vraiment le temps de revenir au contact du groupe, au contact de la salle. N'hésitez pas à bailler, vous étirer. En vitose, il n'y a pas de problème de bailler, de s'étirer, bien au contraire. Sentez bien d'ailleurs ce que votre corps exprime là. Ce que vous ressentez. S'il y a de la lourdeur, des tensions, parce que paradoxalement, ces pratiques peuvent des fois révéler des fatigues, des tensions, une forme de, voilà, de crispation. Et notez bien que tant qu'on n'a pas conscience de cela, on ne peut pas passer à autre chose. Donc cette invitation, encore une fois, à accueillir ce qui est là. On ne prendra pas le temps d'échanger maintenant. On le fera tout à l'heure dans les temps pratiques, parce que vous verrez qu'en vitose, les temps d'échange sont aussi très importants après les temps de pratique. Alors, quelques mots sur le docteur Vitose. Donc, j'ai dit que c'était un médecin suisse. Il est né à Morges en 1863, donc on est à la fin du 19e siècle. En fait, il est jeune médecin et en fait, très tôt pendant ses stages hospitaliers, il va prendre conscience de l'importance du psychisme chez les malades. Il va d'ailleurs s'intéresser, comme beaucoup de médecins à l'époque, à l'hypnose. L'hypnose était à la vogue, était à la mode. Et donc, il est montré à Paris, à la Salpêtrière, et il s'est formé avec le professeur Charcot. Ça l'a intéressé jusqu'à un certain point, mais en fait, il s'est très vite détourné de la pratique, parce qu'il considérait, c'est son approche à lui, que le patient était trop dépendant du thérapeute. Et lui, ce qu'il voulait, c'était une thérapeutique dans laquelle le patient allait prendre en main sa guérison. Il a été aussi très influencé par les cours du professeur Richet qui disait que toute activité psychologique ou psychopathologique avait des répercussions dans le corps. C'était assez révolutionnaire parce qu'à l'époque, toute la notion de somatisation, de maladie psychosomatique était complètement ignorée du corps médical. Et donc Vitose, il a mis en place sa thérapie par une double observation. D'abord l'observation de ses patients. Quand il recevait ses premiers patients, il a pris très vite conscience que quand les patients parlaient de leur maladie, ils étaient justement rarement connectés à l'instant présent. Ils étaient souvent des ruminations par rapport à un passé qui s'était mal passé, ou au contraire, dans des projections anxieuses face à un avenir par définition incertain. C'était sa première prise de conscience. La deuxième, c'est que lui-même, il a vécu une phase, on va dire une forme de dépression, à la fin de ses études, suite à une maladie infectieuse, la scarlatine, qui a entraîné chez lui une grosse, grosse fatigue physique. Et que cette fatigue physique, en fait, a créé chez lui une grosse fatigue nerveuse. Et donc, il a bien effectivement pris conscience de ce lien très fort entre le corps et l'esprit. Et pour lui, cette fatigue nerveuse, elle s'est traduite par un emballement de sa pensée. il n'arrivait plus à arrêter de penser. Si bien qu'en fait, il a perdu un moment le sommeil, il a vécu une longue période d'insomnie. Et pendant une de ces nuits, justement, il avait un beau meuble en bois, comme au fond, et il s'est amusé, en fait, il s'est investi à le graver, à le pyrograver. Et à ce moment-là, il s'est aperçu que ce travail manuel demandait beaucoup de précision, beaucoup d'attention. Et là, il a été surpris de sentir qu'il était complètement connecté à ses sens, à ce qu'il voyait, à ce qu'il touchait, à ce qu'il entendait. Et qu'à ce moment-là, il a aussi pris conscience instantanément que sa pensée s'était calmée. Et en même temps, il a senti de l'énergie monter en lui. Donc voilà, donc il a pris conscience que finalement, on avait la possibilité de calmer notre pensée. Si justement on acceptait d'être plus connecté dans nos sens, dans notre corps. Et donc c'est à partir de là qu'il a mis en place sa thérapeutique. Et sa thérapeutique, donc, c'est de développer l'attention dans l'instant présent, soit en étant dans la réceptivité, je vais y revenir, connecté à ses sens, soit au contraire, concentré, focalisé à ce que je faisais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est une période tout à fait particulière, parce que c'est une période où il y a ce qu'on appelle la montée des maladies dites nerveuses. Et donc, c'est aussi un moment de grande ébullition intellectuelle chez les médecins. Et c'est là qu'apparaissent les premiers grands noms de la psychothérapie. On peut citer bien sûr Freud, on peut citer Jung, on a cité Charcot, on pourrait citer Schultz, Janet. Toutes ces personnes sont de cette époque, ce qui montre bien quand même que c'est des noms qu'on connaît encore, donc c'est vraiment un moment de forte ébullition et de forte révolution dans le champ de la psychologie. Toutes ces personnes s'intéressaient à la question de la conscience et de l'inconscient, mais peu s'intéressaient au corps. Et bien justement, Vitoz, il a fait un choix diamétralement opposé. Il a fait le choix de développer une thérapeutique où le corps allait être au centre. Et donc, il a développé cette thérapeutique à partir d'exercices sensoriels, des exercices mentaux pour développer cette capacité à être conscient. Et ce qui est très important et ce qui est très révolutionnaire, c'est que pour Vitoz, la conscience, c'est de la sensation. Ça, c'est très important. Et qui disait d'ailleurs, pour penser juste, il faut d'abord sentir juste, partir de la sensation. Donc voilà, donc dans ce contexte, il a mis en place une thérapeutique à médiation corporelle et sensorielle, où au départ, les pratiques sont proposées d'une manière assez directive, en tout cas, on invite le patient, les personnes à pratiquer, comme vous allez le faire cet après-midi, pour découvrir un petit peu ce qui se passe. Et dans un travail thérapeutique ajusté à la personne, de plus en plus, le thérapeute va être à l'écoute du vécu du patient pour justement pouvoir s'adapter et proposer des pratiques qui vont vraiment accompagner au plus près, au plus juste de ce que la personne va vivre. Parce que ces pratiques qui développent l'attention dans l'instant présent, en fait, elles nous permettent de nous connecter en profondeur à nous-mêmes. Et justement, sur nos sensations, sur nos ressentis. Et vous savez qu'on dit que le corps ne ment jamais. Le corps, notre corps, a enregistré beaucoup de choses depuis que nous sommes nés. Et on sait bien qu'aujourd'hui, que même dans les ventres de nos mamans, il y a une mémoire qui est restée dans le corps. Et c'est pour ça que ce travail de retour au corps est un lieu aussi d'accès à beaucoup de choses qui ont été enfouies, qui ont été bloquées, et qui vont permettre, grâce à la connexion au senti et au ressenti, de pouvoir en fait faire du lien, de mettre des mots sur ce qui aura été vécu. Alors justement, pour revenir à Vitoz, sa théorie, il l'a basée sur une conception du fonctionnement neuronal, et pas de la psyché. C'est que pour Vitoz, tout se passait au niveau du cerveau. Soit notre cerveau, il est en mode de réceptivité, et la réceptivité, c'est lorsque je reçois des informations de l'extérieur à travers mes cinq sens et à travers mon corps. À ce moment-là, je suis donc en ouverture à recevoir ce qui m'entoure. Et on dit que dans cet état-là, je suis dans une posture, j'accueille ce qui est, j'accueille ce qui vient. A l'inverse, lorsque le cerveau a reçu les informations, il va y répondre par une pensée, par une image mentale, par une émotion. Et là, donc, on sera du côté de l'émissivité. Et en fait, le contrôle cérébral, c'est un terme qui a été forgé par Vitoz, c'est la capacité à retrouver la possibilité de décider soit d'être dans la sensation ou d'être dans la pensée. Et c'est vraiment le but de ce travail en vitose. Il a écrit un seul livre en 1911 qui s'appelle « Le traitement des psychonévroses par la rééducation du contrôle cérébral ». Et que bien justement, bien avant les grandes découvertes des neurosciences, hein, j'ai cité la neuroplasticité, il y a aussi les neurones miroirs, et je suis sûr qu'on va découvrir encore beaucoup de choses par rapport au fonctionnement du cerveau. Et bien Vitose, déjà, il avait dit « Le cerveau, c'est une partie très importante ». Mais bien sûr, le cerveau, qui n'est pas déconnecté du corps, en fait, moi j'aime bien dire que nous sommes des corps pensants. Le cerveau fait partie du corps. Et qu'il s'agit bien de développer cet état de réceptivité pour recevoir. Et d'ailleurs, pour Vitose, la plupart des troubles psychiques, il considère que c'est lié à une insuffisance du contrôle cérébral. Pour lui, par exemple, toutes les personnes stressées, angoissées, anxieuses, fatiguées, et peut-être que vous pouvez vous interroger, parce qu'on passe tous par des états un peu déprimés, fatigués, ainsi de suite, hein, ça fait partie de la condition humaine, bah, observez que souvent, il y a un côté d'émissivité, une pensée, une rumination qui devient un peu prépondérante. Et donc pour Vito, il s'agit bien effectivement d'apprendre à essayer de calmer les pensées, calmer les ruminations pour être à nouveau plus dans son corps. Et Vito d'ailleurs considérait que ce déséquilibre était souvent lié, ou sans schématiser, mais quand on observe les enfants, les jeunes enfants, ce sont vraiment des maîtres vitosiens. Ils sont vraiment là, pleinement présents, et on a tous été des anciens maîtres vitosiens sans le savoir, à savoir, dans l'instant présent, très flexible au niveau des émotions, hein, quand vous voyez les enfants, ils prennent une grosse colère, et puis dans la seconde, ils basculent dans une immense joie, ils ont déjà lâché ce qui s'était passé. Et en fait, plus on a commencé à grandir, et plus en fait, on a commencé un petit peu à se heurter à certaines limitations du réel qui ont généré en nous certaines émotions, certains ressentis qui des fois n'ont pas été conscientisés, qui ont été un petit peu refoulés, ce qui fait que souvent l'enfant a pu se couper de certaines sensations ou émotions et plutôt se réfugier dans une espèce de vagabondage mental pour mettre une espèce de filtre entre moi et la réalité. Comme c'est justement un moyen de mettre à distance un extérieur que l'enfant pouvait trouver un petit peu dangereux. Et bien pour Vitose, encore une fois, Vito ne disait pas que penser c'est mal, absolument pas. Mais il disait bien que la pensée sans incarnation, là, était à l'origine de beaucoup de troubles. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la méthode Vitose est un travail de rééquilibrage entre la pensée, le corporel et l'émotionnel. Donc si on résume, juste avant de résumer, c'est vrai que Vitose, bon, certains le connaissent, il est en même temps pas très connu dans le grand public, même si de plus en plus on le connaît, notamment grâce à l'émergence de la pleine conscience qui permet quand même de remettre au goût du jour la méthode Vitose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à son époque, il était très très connu. Aussi bien en France, par exemple, où il y avait ce qu'on appelait des trains Vitose. Il y avait des trains qui partaient régulièrement de Paris et qui amenaient ses patients à sa clinique à Lausanne. Et puis par ailleurs, ses parents, qui étaient très liés à des grandes familles bourgeoises, intellectuelles, anglaises, a fait qu'il y a eu aussi beaucoup de patients américains et anglais qui sont venus le voir, dont des gens très connus. Je pourrais juste citer T.S. Eliot, si certains le connaissent. C'est un grand poète américain qui a eu le prix Nobel de littérature en 1948 et qui a dédié son livre, en fait, à Vitose. Parce que quand il était en train d'écrire ce livre, il a eu une grosse dépression, il n'arrivait plus à écrire. Il a été quelques mois ou quelques années chez Vitose, qui l'a guéri. Et donc, il a été très, très reconnaissant sur l'approche du Vitose. Voilà, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur la méthode Vitose. Je regarde le temps qui passe, parce que vraiment, encore une fois, je ne voudrais pas trop qu'on rogne sur la partie pratique. Juste de dire quand même que, justement, la grande force du Vitose, selon moi, mais selon les gens qui la pratiquent, c'est son côté intégré et intégratif. Quand je dis intégré, c'est vraiment le côté intégré au quotidien. Encore une fois, il s'agit de considérer que notre quotidien, c'est notre laboratoire de jeu, où on va pouvoir justement expérimenter des pratiques courtes, mais régulières, qui fait que justement, comment de temps en temps être dans ce que j'entends, dans ce que je vois, dans ce que je touche, quand je marche, de sentir mon corps en mouvement, mon corps qui se déplace, sentir ma respiration. Voilà. Et c'est vraiment ce travail-là hein, qui est un travail où finalement on va travailler sur toutes les dimensions de l'être humain. Hein, Vitos considère qu'on est défini sur les 3 C, cœur, corps, cerveau. Et c'est vraiment ce travail d'alignement dans ces 3 dimensions qui fait que ça en fait un travail thérapeutique en profondeur. Juste pour terminer, et avant que j'introduise le travail dans le groupe, le docteur Vitos, sa thérapeutique, il l'a vraiment développée en tant que médecin et scientifique. Pour autant, il paraissait important de dire dans ce week-end spirituel qu'il était aussi chrétien, et juste dire quelques phrases qu'il a pu dire, voilà, qui montrent que son approche, c'est aussi vraiment ce travail d'incarnation qui pour lui est très important. Il disait... La réceptivité, c'est tout. C'est être en contact avec tout ce qui vous entoure et vous ne vous sentirez jamais seul. Il n'y a ni prière, ni méditation sans concentration. L'un implique l'autre. Il faut que le corps et l'esprit vivent et se développent de même. Il est faux et mauvais de ne vivre que de l'esprit. Plus vous acquérez d'unité, plus vous vous simplifiez et plus vous verrez grand. Tout cela va de pair. Et puis enfin, il aimait dire, mieux vaut sentir Dieu que l'idée de Dieu. Donc voilà, je terminerai pour dire que la méthode Vitos, c'est vraiment un chemin d'incarnation et d'unification par le développement de la présence attentive. Cette présence à être là. À soi, aux autres, au monde et à Dieu pour les croyants. Et je crois que ça rejoint bien le thème de cet après-midi. La première chose, c'est la liberté. Ne vous sentez pas obligé de pratiquer. Ne vous sentez pas obligé de parler de votre pratique. En Vitos, c'est une invitation. Vous êtes juste invité. C'est une possibilité qui vous est offerte, mais peu importe les raisons qui pourraient faire que vous n'avez pas trop envie d'essayer ou vivez les choses comme c'est bon pour vous. La deuxième chose, c'est la confidentialité. Ce qui va être vécu dans le groupe appartient au groupe. Seules les personnes qui auront envie de parler de leur propre expérience pourront le faire. Et c'est important que voilà, chacun soit maître de ce qu'il partage et on ne parle pas de ce qui aurait pu être vécu par quelqu'un d'autre. Il y a aussi la question de l'expression, chacun parle en son nom. Voilà ce que j'ai vécu. Et puis bien sûr, le temps du respect et de l'écoute. Vous verrez que chacun est invité à parler de son expérience. On n'est pas là pour parler des commentaires ou de commenter ce qui aura été vécu. C'est vraiment chacun est invité à faire une expérience personnelle dans un groupe. Et vous allez voir la richesse du groupe, c'est que chacun va vivre son expérience qui peut être très différente. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer.